D'une certaine façon, ce que je vais vous présenter, c'est en partie des thèmes que j'évoque dans ce livre, La vie, la mort d'État, mais un autre livre qui va sortir dans quelques semaines, qui s'appelle Le corps et l'argent, qui est un peu la suite de celui-là, qui exprime un peu, si vous voulez, à la suite de l'apparition de ce livre, j'ai eu pas mal de débats, en particulier autour de la question des mères porteuses, avec Sylviane Agacinski, entre autres. Et puis, un des arguments qui revenait de façon récurrente, c'est que ce que je défendais dans ce livre, au fond, ça amenait à une dérive mercantile, à la commercialisation, par exemple, du corps des femmes qui acceptent de porter un enfant pour autrui. Et donc, dans ce livre, Le corps et l'argent, j'essaye de façon plus générale de m'interroger sur les raisons pour lesquelles il serait illégitime de mettre son corps à la disposition d'autrui contre de l'argent, et plus profondément, enfin si je peux dire les choses ainsi, je m'interroge sur la différence morale entre donner quelque chose et échanger cette chose contre de l'argent. Parce que ce qu'il faut garder à l'esprit quand on pense au don d'organes, vous savez qu'on peut, à des fins de transplantation, donc donner un rein, une partie du foie, un poumon aussi, et puis des produits du corps humain, des tissus, et puis aussi du sang, du sperme, des ovocytes. On peut le donner, mais il est interdit, dans la plupart des législations des pays démocratiques, de recevoir de l'argent en échange. Mais si une chose peut être donnée, c'est qu'elle vous appartient d'une certaine façon. Parce que je ne peux pas donner votre chemise à quelqu'un, je peux donner la mienne. Donc si ça m'appartient, pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit d'en faire ce que je veux après tout, c'est-à-dire aussi de le vendre si ça me convient. Donc je me suis demandé pourquoi on accordait un tel privilège au don et pourquoi on diabolisait tellement toute forme de rémunération, de compensation. J'ai étendu ça aussi à d'autres façons de mettre plus traditionnel son corps à la disposition d'autrui, comme la prostitution, et j'ai essayé donc de donner des arguments ou d'évaluer les arguments qui faisaient que c'était complètement exclu du domaine de ce qui peut être légitimement échangé contre de l'argent. Donc ça, c'est la suite, mais avant d'arriver à ça, donc je vais vous parler plutôt, bien que je parlerai un peu de la question de la vente d'organes, des marchés d'organes à des fins de transplantation, en espérant que je ne choquerai pas trop, mais ça, c'est le travail des philosophes de poursuivre leur réflexion jusqu'au bout, sans d'ailleurs d'intention spécialement provocatrice. Vous voyez, par exemple, en ce qui concerne cette question des marchés d'organes, je me suis posé juste une question très simple, c'était pourquoi est-ce qu'on peut donner, on ne peut pas le vendre? Bon, c'est une question assez traditionnelle. Une des réponses peut être, mais c'est si évident, mais ce n'est pas celle que j'ai choisie. Donc la question que je me suis posée dans ce livre, La vie de la mort d'État, est une question qui pose sur les interventions de l'État par la menace et la force, vous voyez, la prison, des peines d'amende, etc., en ce qui concerne toutes les affaires qui sont relatives à la procréation et la fin de vie, et même de façon un peu plus générale à la gestion du corps humain. C'est-à-dire, qu'est-ce qui autorisait l'État à agir contre ses propres citoyens en leur imposant, enfin, en les menaçant de prison ou en les menaçant d'amende pour ce qui concernait, par exemple, le suicide assisté ou l'assistance médicale à la procréation. Je vais vous dire tout de suite quel est mon point de vue général. Je plaide pour la neutralité éthique de l'État, c'est-à-dire que je crois que l'État doit protéger le pluralisme moral, le droit de chacun d'agir selon ses convictions morales profondes. C'est particulièrement le cas en ce qui concerne la fin de vie, le suicide assisté et l'euthanasie. Et je voudrais aussi insister sur le rôle conservateur, je me permettrais même de dire réactionnaire, de la notion de dignité de la personne humaine et de marchandisation du corps humain dans tous les débats publics sur la procréation et la fin de vie aujourd'hui. Alors, je sais que ce sont des concepts, celui de dignité humaine qui est promue, et puis un rejet de tout ce qui peut ressembler à ce qu'on appelle des dérives mercantiles. Donc, en disant que je vais essayer de donner des arguments qui montrent que la notion de dignité humaine, il faut s'en méfier et il ne faut pas non plus diaboliser la notion donc de marchandisation. Je sais, là aussi, je me mets dans une situation qui est un peu inconfortable, mais j'espère que mes arguments montreront au moins qu'on peut réfléchir sur ces questions et que l'absence de réflexion n'aide pas à changer les choses pour ceux qui veulent les changer. Je pense que c'est À chaque fois qu'il y a une innovation normative intéressante, comme par exemple, je crois que c'est le cas pour les mères porteuses ou d'autres innovations, l'accès des homosexuels à l'assistance médicale à la procréation, on va toujours mettre en avant l'argument de la dignité, l'argument de la marchandisation, puis aussi l'argument de l'intérêt de l'enfant que j'évoquerai. Et donc, je pense que ce sont des épouvantails qu'on met en avant aujourd'hui pour bloquer toute possibilité d'innovation normative dans ces domaines. Il y a aussi un autre argument qui est celui de la protection des personnes les plus vulnérables. J'essaierai de montrer en quoi ces arguments sont paternalistes, ce qui est une raison pour moi de les rejeter. Je vais commencer juste par vous donner quelques idées autour de la notion de neutralité éthique de l'État. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Un État démocratique, laïque et pluraliste, en principe, ne peut pas justifier sa législation en invoquant les évangiles. Il ne peut pas dire, par exemple, bon ben voilà, on est contre l'homoparentalité parce qu'il y a un passage de la Bible qui dit ça et ça et ça. Peut-être que les députés pensent à ça, mais dans l'énoncé de la loi, dans sa justification publique, c'est-à-dire dans les raisons publiques qui vont être invoquées, les évangiles ne peuvent pas être invoqués. Il ne peut pas agir l'État de façon coercitive, c'est-à-dire menacé de prison, menacé d'amende en invoquant des raisons religieuses. Est-ce qu'il peut intervenir de façon coercitive en invoquant des raisons morales? C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'il peut s'appuyer sur l'éthique à Nicomaque d'Aristote, ou sur le fondement de la métaphysique des mœurs de Kant, ou sur totalité infinie de Lévinas, puisque Lévinas est un philosophe qui est apprécié par de nombreux philosophes? Je ne le crois pas non plus. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une loi qui dirait, écoutez, étant donné que Lévinas nous parle du visage d'autrui, donc ça suffit à justifier une loi qui nous interdirait X et Y. Bon, donc. Pareil pour Kant, normalement, il y a des gens qui ne sont pas kantiens, qui ne partagent pas ses opinions, donc les concepts de Kant, on peut s'en servir au moment du débat parlementaire, on peut mettre ça en avant, ça peut faire partie de nos convictions profondes, mais une loi ne peut pas être justifiée en disant, voilà, comme c'est Kant qui a dit ça, eh bien alors cette loi doit être acceptée par la population française. Donc, de la même façon qu'un État démocratique, laïque et pluraliste doit être neutre du point de vue religieux, c'est-à-dire ne pas justifier son action coercitive par des raisons religieuses, je crois qu'il doit être neutre aussi du point de vue éthique, c'est-à-dire éviter de justifier son action par l'appel à des conceptions morales d'ensemble. Et mon sentiment, c'est que, alors que la laïcité, c'est-à-dire le fait que disons, le législateur fait attention à ne pas invoquer d'arguments controversés religieux, il est moins conscient du fait qu'il devrait aussi éviter, dans la mesure du possible, de faire intervenir des considérations qui relèvent d'une certaine éthique ou d'une certaine conception éthique d'ensemble, qu'elle soit celle de Kant, des utilitaristes comme Mill, ou qu'elle soit celle d'Aristote. Alors, en disant que je suis pour la neutralité éthique de l'État, je ne dis pas que l'État doit se désengager de ces questions de fin de vie, d'euthanasie, etc., ou de ces questions de procréation, mais sa tâche doit être de protéger le pluralisme, de faire en sorte qu'un kantien s'y retrouve aussi bien qu'un utilitariste, si c'est possible, ou aussi bien que quelqu'un qui reste attaché à l'éthique d'Aristote, à l'éthique de la vertu, etc. Donc, si des gens estiment, par exemple, contre Kant, que ni le suicide ni l'aide au suicide ne sont des actes immoraux, ils devraient, en principe, dans l'État tel que je le conçois dans l'idéal, pouvoir vivre selon cette conviction morale profonde, mais ce n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Maintenant, quand je dis qu'il y a la neutralité éthique de l'État dit que chacun doit pouvoir vivre selon ses convictions morales profondes, il y a des limites à l'expression de ses convictions qu'on peut résumer à la formule: chacun peut faire ce qu'il veut de sa vie et vivre selon ses convictions du moment qu'il ne nuit pas aux autres. Alors, bon, ça c'est. Bon, je défends en général ce que j'appelle une éthique minimaliste. C'est une éthique minimaliste dans le sens où elle rejette l'idée qu'on aurait des devoirs envers soi-même, comme le devoir de ne pas se suicider ou le devoir de développer ses talents naturels ou d'autres devoirs. Enfin, chez Kant, par exemple, il y a aussi le devoir de ne pas se masturber. Alors, bon, celui-là, les gens sont plus enclins à me suivre, mais pour d'autres, ils pensent qu'on doit avoir des devoirs envers soi-même. J'essaye dans mes livres d'expliquer pourquoi cette notion de devoir envers soi-même est confuse. Donc je les enlève de l'éthique. Je pense qu'il n'y a que des devoirs moraux envers les autres. Parmi les devoirs moraux envers les autres, il y en a qui sont positifs, comme essayer de faire le bien des gens. Mais comme il y a toujours ce risque de paternalisme, de faire le bien des gens contre leur volonté, j'ai une certaine méfiance à l'égard de ceux qui veulent faire le bien des gens. Donc, la seule chose qui reste de cette éthique, c'est pour ça que je l'appelle minimale, c'est donc des devoirs négatifs envers les autres, c'est-à-dire essayer, dans la mesure du possible, de ne pas leur causer de tort, de ne pas porter atteinte à leurs droits fondamentaux. Et c'est à ça que se résume, donc, si vous voulez, ce principe d'éthique minimale. En ce qui concerne son application à l'action de l'État, elle a été très très bien exprimée par John Stuart Mill dans son livre de la liberté de 1859. Il dit: la seule raison légitime que puisse avoir une communauté civilisée d'utiliser la force contrainte ses membres contre sa volonté, c'est d'empêcher que du mal soit fait à autrui. Contraindre quelqu'un, hein, par la menace et la force, il faut toujours avoir ça à l'idée, pour son propre bien, soit physique, soit morale, n'est pas une justification suffisante. Alors vous voyez, le cadre est très simple, c'est quelles sont les interventions légitimes par la menace et la force? Est-ce qu'il est légitime d'agir quand les gens, par exemple, se causent du tort, se suicident, se droguent, se tatouent de la tête aux pieds, etc.? Pour moi, ça devrait complètement échapper, tout ce que les gens se font à eux-mêmes, du moment qu'ils ne nuisent pas aux autres, à la réprobation morale et à la répression légale. Je suis complètement libéral pour tout ce qui concerne le rapport à soi, l'usage des drogues, l'automutilation, le suicide, etc. Mais je suppose qu'on aura l'occasion d'en discuter. Cette formule de Mill, elle exclut ce que j'appelle, enfin, je ne suis pas le seul à le faire, mais enfin, des crimes sans victime. Alors, parmi les crimes sans victime, il y a le blasphème, le sacrilège, le suicide, la tentative de suicide, les relations sexuelles de quelque ordre qu'elles soient, c'est-à-dire sadomasochistes, homosexuelles ou autres, par exemple, entre personnes consentantes, entre adultes consentants. C'est à propos de la criminalisation de la prostitution, de la sodomie et d'autres relations sexuelles désapprouvées au nom de la nature ou de la morale, que la question « mais où sont les victimes » a commencé à se poser. Et alors, c'est une question qui a été posée au moment de l'élaboration d'un droit pénal post-révolutionnaire en 1791. Et donc, enfin, un des députés disait « notre nouveau droit pénal ne doit pas contenir de crimes imaginaires, de crimes où il n'y a pas de victimes, et c'est ainsi que la sodomie ou même la bestialité, qui est revenue d'ailleurs dans le code pénal récemment, que la bestialité, le blasphème aussi, ont été exclus de l'ensemble des actes qui pouvaient être réprimés par une législation démocratique. Hein, mais bon, on est en train de revenir évidemment sur certains de ces acquis. Alors, on pourrait, à mon avis, se poser exactement la même question à propos de l'encadrement coercitif de la procréation et de la fin de vie. Et la réponse devrait être la même. Donc là, je vous mets les cartes sur table au début. Le suicide assisté sous ses différentes formes, la gestation pour autrui, l'aide médicale à la procréation pour les gays, les lesbiennes et les femmes jugées trop âgées, et même le clonage reproductif ne vise nullement à causer des torts à quiconque. Ce sont par conséquent des crimes sans victime qu'il est injuste de pénaliser. J'ai fait allusion, je n'y reviendrai pas par la suite parce que je ne vais pas trop insister sur les aspects, sur les détails de la loi, mais dans la législation française, l'accès à la procréation médicalement assistée est très très sérieusement encadré. Donc il n'y a que des couples stables, c'est-à-dire qui vivent depuis 2 ans au moins ensemble, qui sont mariés, dont les deux sont vivants, hein, il ne peut pas y avoir d'insémination, d'accès à la médicale à procréation post-mortem, et aussi, donc, il faut que ce soit un couple hétérosexuel et où la femme a moins de 43 ans. Enfin, et donc, alors, il ne faut pas croire que c'est au-delà de 43 ans, c'est plus remboursé par la sécurité sociale, c'est simplement exclu par la législation sur tout le territoire, même si vous voulez beaucoup payer, vous risquez donc, comme je disais, l'intervention de l'État par la menace et la force, si vous avez, disons, 43 ans et un jour. Bon. Et si un médecin accepte donc de vous faire accéder à l'assistance médicale à la procréation. Alors, à mon avis, le contrôle de la procréation et de la fin de vie pourrait être parfaitement orienté par le principe politique minimaliste qui exclut les crimes sans victime, indépendamment de tout appel à des grands principes éthiques kantiens comme le respect de la nature, celui de la dignité humaine, mais ce n'est pas le cas. Eh bien maintenant, je vais passer donc à ce qui sera, après cette introduction très générale, à ce qui est plus l'objet de cette conférence, et donc les lois de bioéthique ce qu'elles autorisent et ce qu'elles interdisent. Les lois de 1994 étaient dites de bioéthique dans le débat public, mais en fait, ce n'était pas vraiment, du point de vue légal, ce n'était pas des lois de bioéthique, c'était des lois de sécurité sanitaire qui étaient destinées à encadrer l'activité des médecins et des chercheurs. En fait, c'est simplement ensuite, en 2004, qu'elles sont devenues officiellement des lois de bioéthique, hein, c'est aujourd'hui l'intitulé de la loi, et qu'elles cherchèrent dans le principe moral de dignité de la personne humaine un fondement général qui aurait une supériorité normative sur le consentement. Ce que je veux dire par là, c'est que, normalement, comme je disais, un État démocratique, laïque et pluraliste ne doit pas intervenir au nom de raisons éthiques. Alors, c'est déjà la seule loi qui a éthique dans sa formulation. Donc là, l'État intervient au nom d'une certaine morale des relations. Et il le fait en plus en faisant appel de façon explicite dans la justification de la loi à la notion de dignité de la personne humaine. De trois principes qui sont dérivés de cette notion, c'est le principe de l'anonymat, hein, pour le don de gamètes, de sperme ou d'ovocytes, le consentement, évidemment, des personnes, et la gratuité, hein, dans tous les cas, en ce qui concerne les transferts d'organes, les prélèvements de sang, de sperme, etc. Donc vous avez une architecture qui est construite ainsi. D'un côté, vous avez la dignité humaine. La dignité humaine est censée justifier la gratuité, l'anonymat et le consentement. Hein. On respecte la dignité de quelqu'un en respectant son consentement. D'un autre côté, il y a quelque chose qui est complètement bizarre dans l'architecture de cette loi, c'est qu'elle essaye de promouvoir ou de donner un certain avantage légal et moral à la famille hétérosexuelle en âge de procréer. Ça, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Je ne pense pas que ça soit justifié par les principes de dignité humaine. Enfin, voilà, vous avez deux choses qui sont en fait un peu boiteuses. C'est que, d'une part, on a une construction morale bâtie autour de la notion de dignité humaine, et d'un autre côté, il y a un appel, pas tellement justifié ou non, à la promotion de la famille hétérosexuelle en âge de procréer. Quand vous réfléchissez un peu à la partie qui m'intéresse plus, c'est-à-dire celle de la construction autour de la dignité humaine, vous apercevez qu'il n'est pas vrai que les trois sous-principes d'anonymat, de gratuité et de consentement soient dérivés et justifiés par la notion de dignité humaine. Par exemple, on ne voit pas très bien en quoi l'anonymat du don de sperme est justifié par la notion de dignité de la personne humaine. En ce qui concerne, par exemple, le prélèvement de sang, la raison pour laquelle il est gratuit en France, ce n'est pas parce que c'est un moyen de respecter la dignité de la personne humaine, mais c'est pour des raisons de sécurité sanitaire. On a toujours cru que si le sang était prélevé, gratuite, le risque que des gens essaient de le commercialiser, même s'il n'est pas de très bonne qualité, serait plus faible. Mais ce que nous avons vu en France, c'est que bien que le prélèvement du sang soit gratuit, c'est en France qu'il y a eu l'affaire la plus tragique de sang contaminé. Donc, si vous voulez, l'idée que l'exclusion du prélèvement de sang de toute transaction commerciale serait une garantie sanitaire n'a pas été vérifiée, si on peut dire. Et en ce qui concerne la notion de consentement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas dérivée de la notion de dignité humaine, comme je disais de façon très immédiate. Évidemment, l'une des raisons pour laquelle je dois respecter votre consentement, c'est que je vous respecte en tant que personne. Mais tout ce que montre l'analyse de cette notion, c'est que la notion de dignité humaine est utilisée contre le consentement des personnes, est utilisée pour dire aux personnes, vous ne pouvez pas consentir à n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous risquez de mettre en cause votre propre dignité. Alors je vais évidemment beaucoup insister là-dessus. En fait, donc, les deux raisons qui semblent justifier cet ensemble répressif, c'est le respect de la dignité de la personne humaine et le risque de la commercialisation, de la marchandisation du corps humain. Et le deuxième, c'est la protection des plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout la capacité de consentir ou ne pas consentir, comme les fœtus, les bébés, les enfants, ou les personnes dont les facultés cognitives sont gravement atteintes. Donc voilà, ça, c'est les deux choses qui vont être, disons, l'objet de mon analyse. D'une part, la notion de dignité de la personne humaine et ce qui en est dérivé, le refus de toute commercialisation, le refus de toute dérive mercantile en ce qui concerne les échanges qui concernent le corps humain. Et d'autre part, l'argument de la protection des plus vulnérables. Alors, la notion de dignité humaine est aujourd'hui, à travers la philosophie de Kant, est redevenue la référence ultime dans tous les débats publics relatifs aux questions dites éthiques. Pensez par exemple au livre qu'a écrit Axel Kahn, par exemple, sur la fin de vie, l'ultime liberté. Il est entièrement construit autour de ces notions. Et d'ailleurs, si vous analysez la plupart des arrêts, disons des décisions ou des avis, c'est le terme le plus précis, du Comité consultatif national d'éthique, il est basé sur cette notion de dignité et surtout, de façon plus générale, sur la philosophie kantienne et autour de trois slogans qui sont dérivés de la pensée de Kant. Ça s'applique aussi bien aux mères porteuses, à l'euthanasie, à l'expérimentation sur les embryons, au clonage, à l'assistance sexuelle aux handicapés. Donc, il ne faut pas instrumentaliser la personne humaine. Il ne faut pas traiter autrui comme un simple moyen et il ne faut pas porter atteinte à sa dignité. Alors, si vous trouvez un seul avis du Conseil ou si vous trouvez un seul débat public aujourd'hui dans lequel il n'est pas fait appel à ces trois notions qui sont strictement kantiennes, ben, prévenez-moi. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui constitue aujourd'hui, si vous voulez, le roc ou le socle sur lequel est construit tout le débat public. Même la critique de la marchandisation qui est marxiste à la base, enfin qui est, eh bien, elle est revenue aujourd'hui dans le débat public sous différentes formes, mais essentiellement sous cet aspect de respect de la personne humaine qui est une notion kantienne. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans un débat philosophique pour savoir si, disons, les conceptions qui sont développées par Marx et celles par Kant sont compatibles. Ce qui est intéressant, c'est que chez une philosophe comme Sylviane Agacinski, lorsqu'elle exclut, en ce qui concerne les mères porteuses, par exemple, les dérives mercantiles autour de la gestation pour autrui, elle le fait en tant que femme de gauche, enfin femme de gauche marxiste, mais aussi au nom de la dignité de la personne humaine, et qui est une conception, en fait, une conception qui n'est pas directement empruntée, disons, à ce corpus intellectuel. Donc je crois que même la dérive mercantile, aujourd'hui, est justifiée, elle est revenue sous des habits kantiens, avec cette idée qu'il ne faut pas traiter autrui simplement comme un moyen, comme un simple moyen, il ne faut pas instrumentaliser les autres, il faut respecter sa dignité, qui sont des conceptions morales dont, enfin, au moins pendant toute une génération, ceux qui étaient proches du marxisme s'étaient plus ou moins débarrassés. Alors, maintenant, donc, c'est une notion, la notion de dignité humaine qui semble fondamentale, en effet. En disant ça, même avec un ton légèrement distancié ou sceptique, je ne vous ai donné encore aucun argument pour montrer qu'il n'est pas important de faire attention à ne pas traiter autrui comme un moyen, ne pas l'instrumentaliser, à respecter sa dignité. Donc, sur quoi pourrait être basé mon scepticisme à l'égard de la notion de dignité humaine? Je vais la prendre à sa source, donc chez Kant, dans celle qui est défendue aujourd'hui dans le débat public. Chez Kant, il faut faire attention que la notion de dignité humaine est une notion qui est une notion symétrique, c'est-à-dire qu'elle concerne aussi bien votre rapport aux autres que votre rapport à vous-même. Et ça s'exprime de façon très claire dans le traitement parallèle du suicide et du meurtre. C'est-à-dire, quand vous tuez quelqu'un, en fait, vous ne le respectez pas comme personne, mais si vous vous tuez vous-même, vous faites exactement la même chose. Il n'y a aucune différence, il y a une symétrie morale entre ce qu'on fait aux autres et à soi-même. Il faut respecter la personne humaine aussi bien dans autrui que dans soi-même. Qu'est-ce qui justifie la symétrie morale entre ce qu'on fait aux autres et ce qu'on fait à soi-même? Alors, elle est dérivée chez Kant de l'idée que nous sommes des personnes et non des animaux et des choses, et en tant que personnes, nous ne pouvons pas être traités simplement comme des moyens, mais toujours en même temps comme des fins, et ce principe vaut aussi bien pour le rapport à soi que pour le rapport aux autres. Alors, essayons d'analyser ce que signifie plus exactement la dignité dans le rapport aux autres, ce qu'il faut respecter chez les autres quand on dit qu'il faut respecter leur dignité, ce qu'on doit respecter chez soi quand on dit qu'on doit respecter la dignité. Pour Kant, du fait que nous sommes des personnes et non pas des bêtes, personne ne peut nous tuer gratuitement, nous utiliser pour notre chair, par exemple, nos poils ou nos dents, comme ça s'est fait, et jeter nos restes à la poubelle. Vous voyez, c'est-à-dire ce traitement, comme on peut le faire pour des animaux, même qu'on respecte, un poulet, on ne peut pas le faire avec une personne, tout le monde serait scandalisé. D'ailleurs, les gens le sont quand on s'aperçoit que, par exemple, dans les hôpitaux, des jambes amputées traînent dans une corbeille sans qu'on y fait attention, etc. C'est-à-dire, en fait, les restes humains, enfin, on ne les traite pas comme ceux des animaux, et évidemment, bon, sauf cas extrême, on n'est pas autorisé à se manger les uns les autres, etc. Bon, je dis des trivialités, mais on le sait. On ne peut pas non plus. On n'est pas non plus, on peut pas non plus nous traiter comme des choses, hein, faites attention, donc être traité comme des animaux, et puis d'autre part comme des choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous vendre, on ne peut pas nous acheter, on ne peut pas nous mettre en location, hein, comme on pourrait le faire d'une voiture, et on ne peut pas nous détruire quand nous ne servons plus à rien, comme c'est le cas pour des vieilles chaussettes ou un matelas troué. Bon, alors, Donc la personne est donc une sorte d'entité qui n'est ni réductible à la chose ni à l'animal. C'est dans le rapport à soi que la notion de dignité humaine intervient de façon la plus significative, non seulement chez Kant, mais dans tout ce qui en a été fait dans les législations, enfin, et dans les débats publics ces dernières années. On l'a vu au cours de débats relatifs au lancénat, ou à la gestation pour autrui, à l'assistance sexuelle aux handicapés. Alors, vous avez peut-être suivi cette affaire qui remonte à plus de 10 ans, où des personnes de petite taille se faisaient envoyer contre de l'argent par des sortes de canons. Et donc, celui qui gagnait, c'était enfin, le nain qui allait le plus loin. Et donc, il y a un maire dans une ville qui a considéré que c'était une atteinte à l'ordre public. Alors, les défenseurs des personnes de petite taille ont répliqué qu'en fin de compte, elles avaient le droit de faire ce qu'elles voulaient d'elles-mêmes et que s'ils voulaient leur interdire, qu'ils leur donnent peut-être des moyens de survivre de substitution, parce que interdire à quelqu'un de faire quelque chose sans lui dire comment il peut vivre par ailleurs, c'est pas non plus le respecter d'une certaine façon. Et puis finalement, donc l'affaire a suivi son cours et le lancénat était interdit non pas comme simple atteinte à l'ordre public, mais comme atteinte à la dignité de la personne, c'est-à-dire qu'au fond, quelle que soit la conception que se faisait la personne de petite taille de sa vie, elle n'avait pas à faire ça. On lui disait non, tu ne peux pas faire ça. Et donc je résumerai, si vous voulez, l'usage de la notion de dignité dans le rapport à soi par ce genre de phrases qu'on pourrait adresser aux personnes de petite taille, mais certaines les adressent aussi aux personnes qui se prostituent, par exemple, alors qu'elles pourraient faire autre chose, ou disons le contexte sera le même, ou celles aussi qui sont prêtes à porter un enfant pour autrui. Non, mesdames, non, messieurs, vous n'avez pas le droit moral de le faire, même si en le faisant, vous ne causez aucun tort direct et intentionnel aux autres, même si ce que vous faites est le résultat d'une décision réfléchie, après avoir tenu compte de toutes les contraintes auxquelles vous êtes exposé, vous ne pouvez pas le faire car c'est contraire à votre dignité. Donc vous voyez là, ça intervient très très clairement dans le rapport à soi. Hein. Ce n'est pas des choses, par exemple les personnes de petite taille ne causent aucun tort à qui que ce soit. Une personne qui accepte de rentrer dans un rapport sexuel contre de l'argent, dans la mesure où il s'agit d'un échange consenti, ne cause de tort à personne d'autre. Comme je vous le dirai, en ce qui concerne la gestation pour autrui, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a l'enfant qui intervient. Mais enfin, en principe, la personne qui porte un enfant et les parents d'intention ne cherchent pas à causer du tort à qui que ce soit, mais simplement on considère que ce sont des choses qu'il ne faut pas faire parce qu'elles portent atteinte à votre propre dignité. Alors la question qui se pose est de savoir est-ce que la notion de dignité humaine est indispensable pour régler le rapport moral à soi? Et est-ce qu'elle est indispensable, excusez-moi, pour régler le rapport aux autres? Et est-ce qu'elle est légitime pour régler le rapport à soi? Eh bien, je pense que la notion de dignité humaine, elle n'est pas indispensable pour régler notre rapport à soi, et je pense qu'elle est illégitime pour régler notre rapport à nous-mêmes. Pour ce qui concerne le rapport aux autres, il existe un principe de non-nuisance aux autres, que j'évoquais au début, qui nous demande de ne pas porter atteinte aux droits fondamentaux d'autrui. Ça signifie, écoutez, vous ne devez pas torturer autrui, le déporter, le priver de ses biens, surveiller sa vie privée, le faire souffrir inutilement, lui ôter la vie sans raison impérieuse. Vous voyez, il y a des listes de droits qui sont reconnues par les déclarations universelles des droits de l'homme et qui excluent qu'on fasse tout ça aux autres. Est-ce que faire cette liste de droits, c'est insuffisant? Est-ce qu'il faut ajouter, si on fait tout ça, c'est parce que si on l'autorisait, on porterait atteinte à votre dignité? Au fond, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin de justifier cet ensemble de droits par une valeur qui serait transcendante, supérieure, qui aurait peut-être des racines métaphysiques ou religieuses, qui serait cette notion de dignité humaine. Est-ce qu'on a besoin de justifier ces droits? Est-ce qu'ils ne sont pas assez solides par eux-mêmes? Prenez un exemple, au moment de... il y a eu des campagnes tout au début de la Deuxième Guerre mondiale pour gazer les handicapés mentaux en Allemagne, et donc on savait bien qu'on portait atteinte à tous ces droits, leurs droits de vivre et d'avoir, de prospérer. Est-ce que c'était important de dire, et en plus c'est contraire à leur dignité? Eh bien, je pense que, contrairement à l'impression qu'on pourrait avoir, essayer d'invoquer la dignité pour justifier les droits, ce n'est pas les renforcer, c'est les affaiblir. Parce que c'est donner l'impression que ces droits ne sont pas suffisants par eux-mêmes, qu'ils ne sont pas évidents, qu'ils ne sont pas suffisamment convaincants, qu'ils sont, comme on pourrait dire, bâtis sur du sable et qu'ils ont besoin d'un ancrage dans un concept plus solide que celui de ces droits, qui est celui de la dignité. C'est cette idée qu'il faudrait fonder ces droits sur quelque chose que je récuse. Alors, c'est un courant qui est très présent aujourd'hui. Par exemple, dans la charte des droits fondamentaux qui devait précéder le traité constitutionnel qui a été rejeté par la France, c'est la première fois que l'ensemble des droits que j'ai évoqués étaient chapeautés chacun par une valeur. La dignité, par exemple, figurait comme valeur qui justifiait l'ensemble des libertés formelles que j'ai évoquées tout à l'heure. Et Thomas Ferenczi, un journaliste du Monde, disait que c'était un progrès, que pour la première fois, les valeurs étaient évoquées dans une déclaration des droits de l'homme. À mon avis, c'était plutôt une sorte d'affaiblissement de ses droits, c'était le sentiment que plus personne ne savait très bien si ses droits étaient justifiés. Il y a eu une sorte de désir de les refonder sur quelque chose, à quoi s'ajoutait évidemment, comme vous le savez, à ce moment-là, il y avait un débat pour savoir s'il fallait le rôle que devaient jouer les valeurs chrétiennes dans la justification de la communauté européenne. Et donc, évidemment, la notion de dignité, qui est une notion kantienne, mais qui a été reprise aussi par. Disons les institutions religieuses. Donc cette notion de dignité venait dire, vous voyez, ces droits pour lesquels vous êtes battus, ils ne suffisent pas, il faut qu'ils soient fondés sur quelque chose qui soit transcendant. Donc mon idée, c'est que dans le rapport aux autres, tous ces droits sont bien suffisants et que les tentatives récentes de les fonder sur une valeur, en l'occurrence la dignité humaine, les affaiblit plutôt que les renforce. Dans le rapport à soi-même, je crois qu'il faut se méfier encore plus de l'appel à la notion de dignité humaine. Parce que, en fait, c'est une notion qui est paternaliste. Elle entend nous protéger de nous-mêmes, hein, comme c'est le cas pour les nains ou les personnes qui se prostituent, comme si on était des enfants turbulents et irresponsables qui sommes incapables de savoir par nous-mêmes ce qui est bien pour nous. Et c'est d'ailleurs cet usage paternaliste de la notion de dignité humaine qui justifie la pénalisation de toutes sortes d'actions et de relations dans le domaine sexuel, par exemple, bon, des relations sadomasochistes. Ça a été le cas en Angleterre, entre adultes consentants ont été pénalisés parce qu'elles portaient atteinte à la dignité de la personne. Et je rappelle les exemples que j'ai évoqués donc, dans le domaine sexuel ou de la gestation pour autrui. Et à mon avis, il n'est pas très étonnant que ce soit donc des partis politiques plutôt conservateurs ou des penseurs puritains et moralistes qui multiplient aujourd'hui les références à la dignité humaine. Bon, je ne dis pas que la notion de dignité humaine n'a pas une fonction. Je voulais juste faire mon travail, si on veut, d'une certaine façon, en essayant de montrer qu'elle était construite sur cette notion de symétrie, que contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une notion qui a été bâtie simplement pour régler notre rapport aux autres, où elle a une fonction qui est, à mon avis, douteuse, elle est plutôt utilisée et de façon de plus en plus systématique pour vous dire vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez de vous-même. Et je rejette cet usage, car c'est un usage, à mon avis, paternaliste. Bon, voilà simplement quelques indications sur les objections, disons le scepticisme que je pourrais avoir à l'égard de cet appel de plus en plus fréquent, de plus en plus systématique à la notion de dignité humaine. L'appel à la dignité humaine n'est pas simplement moralement ou politiquement douteux, il est aussi peu susceptible de faire progresser le débat public sur les questions que j'évoque, car il est source de confusion et pas de clarté. Il permet de justifier des causes parfaitement contradictoires, comme le montre le débat autour de l'euthanasie. Comme vous le savez, ceux qui défendent, ceux qui sont contre toute forme de légalisation de l'aide active à mourir, c'est-à-dire des formes d'intervention qu'on appelle l'euthanasie, c'est-à-dire que les médecins pourraient intervenir non seulement en laissant les gens mourir, mais lorsqu'il y a une demande qui est exprimée de la part d'un patient incurable en fin de vie, de l'aider en lui donnant les moyens de mettre un terme à sa vie, et s'il ne peut pas le faire lui-même, même de faire un pas de plus et donc d'intervenir de façon par une injection létale, par exemple, comme ça se fait en Hollande je crois en Belgique aussi, en Suisse c'est pas le cas, et bien alors donc on va dire que c'est cette interdiction, elle se fait au nom de la dignité humaine. Pourquoi? Parce que c'est dire que certaines vies peuvent être, on peut mettre un terme à certaines vies, pourrait signifier que certaines vies valent moins la peine d'être vécues que d'autres, et donc ça serait donner une sorte de prix aux vies humaines. Et l'argument de la dignité, tel qu'il est compris par Kant, c'est que vos vies, ma vie, elle n'a pas de prix. Elle a une valeur, une valeur intrinsèque, et cette valeur intrinsèque, c'est ce qu'on appelle aussi la dignité. Donc, ceux qui sont contre l'euthanasie vont dire que c'est au nom de la dignité humaine. Mais ceux qui sont pour l'euthanasie le font au nom de la dignité humaine aussi. Hein. Comme vous le savez, l'association la plus active dirigée par le député Romero pour la légalisation de l'aide active à mourir, ça s'appelle l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Donc, comme vous le voyez, la notion de dignité peut justifier les causes les plus contradictoires. De la même façon pour les mères porteuses, Sylvia Nagasinski disait que les mères porteuses portaient atteinte à leur propre dignité en tant que femmes en acceptant de servir de sac à bébé ou de four à bébé pour quelqu'un d'autre, hein, c'est les expressions qu'elle employait, mais d'autres pouvaient dire, en leur interdisant de faire ce qu'elles veulent de leur corps, vous portez atteinte à leur dignité. Donc là, la dignité peut à la fois servir à exclure la possibilité de la gestation pour autrui, puisqu'on se sert de son ventre comme on ne devrait pas le faire, et puis elles servent aussi à dire, écoutez, chacun est libre de disposer de son corps, c'est la moindre des choses, c'est respecter la dignité. Donc, c'est pas un argument qui sert à clarifier le débat, puisqu'il sert à justifier les causes les plus contradictoires. Par ailleurs, en dépit de ces prétentions, l'appel à l'idée de dignité humaine ne permet pas de faire un tri qui soit suffisamment précis entre ce qui peut être légitimement acheté et vendu et ce qui ne peut l'être en aucun cas. Je vais poser plusieurs questions. Est-ce qu'il est contraire à la dignité humaine de demander une rémunération en échange de la mise à la disposition d'autrui de son image, comme le fait un mannequin, par exemple, comme pourrait le faire un comédien qui fait une publicité pour une marque? Est-ce qu'il serait contraire à la dignité humaine de demander une rétribution pour une découverte scientifique, par exemple, je ne sais pas, une modification comme on le fait pour le coton, on a inventé un moyen qui permet d'utiliser moins de pesticides, donc on demande des droits de propriété intellectuelle sur son invention. Est-ce que c'est contraire à la dignité humaine de demander une rétribution donc pour une invention de son esprit? Et pourquoi serait-il contraire à la dignité humaine de vendre des capacités à donner du plaisir sexuel à autrui, hein, comme c'est le cas dans la prostitution, ou à porter l'enfant d'un autre, et non de vendre ses capacités athlétiques, comme le fait Zidane par exemple, sa patience, son habileté, ses connaissances, son intelligence? Alors, je ne dis pas, probablement, on est sensible à cette différence, mais je ne crois pas que c'est l'argument de la dignité qui peut nous permettre de faire le tri entre les deux en disant, ah oui, ça c'est. Il n'est pas contraire à la dignité humaine de vendre son image, quand on est une belle personne, ou de vendre ses capacités athlétiques. En revanche, ses capacités reproductrices, ça, c'est contraire à la dignité. Donc, on peut avoir des arguments contre le fait de mettre à la disposition d'autrui ses capacités à donner des plaisirs sexuels ou à reproduire, mais je ne pense pas que ce soit l'argument de la dignité qui, là, peut faire office de garde-tri et nous dire ce qui est bien ou pas bien. En tous les cas, la question que je me posais donc, c'est qu'est-ce qui peut se vendre, qu'est-ce qui peut s'acheter, et j'en arrive donc à cette idée sur les dérives mercantiles qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine. Alors d'abord, il faut prendre conscience, enfin bon, tout le monde le voit bien, que ce débat sur la marchandisation de toutes choses, sur la commercialisation, se fait dans la plus grande confusion. Alors pensez aux arguments en faveur du contrôle de la diffusion des œuvres sur Internet. Parmi ceux qui défendent un contrôle légal avec des sanctions pénales sérieuses pour les contrevenants, je pense à ceux qui soutiennent la loi Hadopi, certains le font au nom de la guerre contre l'ordre marchand qui dominerait la planète. Bon, ça c'était le cas par exemple de Michel Piccoli, Juliette Gréco, Pierre Arditi avaient écrit une lettre au Parti Socialiste pour expliquer pourquoi ils étaient contre le fait que le Parti Socialiste était contre la loi Hadopi en disant qu'eux soutenaient la loi Hadopi. Pourquoi? Parce que c'était une façon de se battre contre l'ordre marchand. Ça c'était le début de la lettre. Et puis ensuite ils ajoutaient que les artistes doivent être payés. Et sous-entendez aussi, quand il s'agit de Juliette Gréco ou de Michel Piccoli, qui ne sont pas gratuits, qu'ils doivent être payés au prix du marché. Donc, alors, combattre l'ordre marchand en demandant que le droit d'auteur soit bien rétribué, il y a probablement une logique, mais d'une part, elle m'échappe un peu et je ne vois pas très bien où est la dignité humaine dans ça. En ce qui concerne la mise à la disposition d'autrui des parties de son corps, comme par exemple le rein, un lobe de foie, et des produits de son corps comme le sang, le sperme et les ovocytes, le refus d'envisager toute forme de rémunération par crainte de l'atteinte à la dignité humaine en raison des dérives mercantiles possibles est souvent assez irréfléchi. Alors, bon, évidemment, on sait que quand on dit bon, on est contre la marchandisation, on l'est contre. Évidemment, moi, je suis contre la marchandisation. Mais enfin, c'est plutôt pour dire bon, on est contre une société injuste où les gens ne cherchent qu'à faire de l'argent, etc. On est contre la soif du gain, la cupidité, etc. Bon, il n'y a pas de polémique finalement là-dessus. Personne ne va dire ah oui, moi, je suis pour la cupidité. Bon, c'est comme. Mais si on essaie de regarder d'un peu plus près ce que signifie la critique de la marchandisation, elle signifie que certaines transactions entre personnes, comme par exemple des relations sexuelles, ne sont illégitimes même si les personnes sont consentantes, hein, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Même si les personnes consentent, elles ne devraient pas avoir le droit de le faire. Mais comme je le disais tout au début, elles ont le droit de donner, on a le droit de donner du sexe, bon, c'est peut-être une bonne chose d'ailleurs, mais simplement, dès qu'on le fait pour de l'argent, alors il va y avoir toutes sortes de limites légales. C'est pas complètement illégal, mais on peut pas le faire partout, on peut pas le faire en public, on peut pas le faire dans certains cafés comme le Phuket, comme vous le savez, entre autres. Alors, et c'est la même chose pour les prélèvements de produits du corps. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'il faut faire très très attention quand on parle de marchandisation du corps, parce qu'aujourd'hui, on s'est concentré sur cette question. Si vous pensez, par exemple, à la critique qui avait été faite de la société marchande dans les années 60, telle qu'elle a été menée par Georges Perec, par exemple, par Baudrillard ou d'autres, ce qu'on reprochait aux jeunes gens de l'époque, c'est d'être intéressés simplement par des choses. C'était le titre d'un roman de Perec. Ce qu'ils aimaient, c'était, enfin, ils pensaient à leur canapé, à leurs vacances, avoir un écran de télé, tout ça. Donc, ce qu'on appelait à ce moment-là la critique, c'était la critique du système des objets ou de la passion pour les objets sans aucune valeur spirituelle, comme avoir une belle voiture, etc. Aujourd'hui, la critique de la marchandisation ne porte plus du tout sur ça. Elle porte sur la transformation en marchandise de choses qui ne devraient pas l'être, comme par exemple les bébés qu'on vend, le corps humain, les organes, les reins, le travail, l'intelligence. Donc, c'est plutôt la transformation en choses et en marchandises de choses qui ne devraient pas l'être. Et pas parce qu'un canapé soit une chose, personne ne s'en plaint. Enfin, personne ne dira que ça ne devrait pas être traité comme une chose. Non, là, il s'agit vraiment de la critique récente telle qu'elle s'est développée ces 10, 15 dernières années. Elle est autour de cette idée que certaines choses qui ne devraient pas être vendues sont vendues. Quand on dit « tout s'achète, tout se vend », ce qu'on veut dire, c'est que le corps aujourd'hui, les parties du corps, le travail, l'intelligence, même les découvertes, tout s'achète, tout se vend aujourd'hui. Bon. Alors, c'est cette idée qui est extrêmement compliquée qu'il faut avoir à l'esprit quand on essaye d'y réfléchir de façon philosophique. Alors d'abord, il faut savoir que quand le commerce du corps dans toutes ces discussions, c'est pas celui des personnes. Hein. Personne ne pense à réhabiliter l'esclavage quand on dit que quand on se pose la question de savoir si la gestation pour autrui rémunérée serait légitime, ou le prélèvement de sperme, ou le don d'ovocytes, s'il doit être rétribué, comme c'est une question que se pose plein de personnes, tout à fait raisonnable aujourd'hui, personne ne dit on va rétablir l'esclavage. Hein. Même ceux qui pensent toujours à l'argument de la pente glissante en se disant ah là là, on va commencer par rémunérer le don d'ovocytes et bientôt on pourra vendre la femme entière qui les a donnés. Non, bon, on va quand même pas jusque-là. Même Finkielkraut, dans ses grands délires sur tout ce qui nous attend dès qu'on commence à faire quelque chose, ce qui est un peu en dehors de la tradition, n'ira pas jusque-là. Donc il faut faire très attention, il ne s'agit nullement de penser à la commercialisation des personnes, au fait qu'on va les priver de leurs droits, les priver de leurs enfants, et puis de les battre, etc. Bon, c'est pas ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de parties du corps et de fonctions du corps dont le lien avec l'identité personnelle n'est pas aussi facile à établir que Kant semblait le supposer lorsqu'il affirmait que le corps était le support de la personne. C'est pourquoi Kant, par exemple, dans les leçons d'éthique, dit qu'il est contraire à la dignité humaine de vendre une dent ou des cheveux, etc. Enfin, vous voyez le complexe de Fantine dans Les Misérables, c'est quelque chose qui était exclu par Kant, parce qu'il pensait que vendre son corps, une partie du corps, c'était un peu comme donner un prix à sa personne et donc porter atteinte à la dignité. Aujourd'hui, les greffes de membres, de tissus et d'organes, les transferts d'embryons, les implantations de prothèses sont devenus des opérations de routine. En raison de ces possibilités offertes par la médecine, les problèmes concrets qui se posent désormais à propos du statut juridique et moral du corps sont devenus aussi compliqués que les problèmes métaphysiques que posait aux Grecs le fameux bateau de Thésée. Alors, vous savez ce que c'était? Le bateau de Thésée, c'était un bateau qui consacrait une victoire des Athéniens. Il était posé sur une place publique. Et puis évidemment, comme c'était un bateau en bois, après quelques années, les planches commencèrent à pourrir et elles étaient remplacées. Puis au bout d'un moment, évidemment, toutes les planches avaient été remplacées. Les Athéniens tournaient autour en se demandant, mais est-ce que c'est toujours le même bateau? C'est un peu comme, bon, on change le couteau, on change la lame, puis on change le manche du couteau, est-ce que c'est le même, etc. Donc, bon, c'est des questions qui peuvent se poser aujourd'hui aussi à propos du corps, étant donné le fait qu'on peut envisager, sans qu'il s'agisse d'une utopie tout à fait irréalisable, qu'à un moment, de très nombreuses parties du corps pourront être remplacées. Bon, on ne peut pas envisager ça encore, probablement pour le cerveau, mais le corps d'une personne dont les organes auraient été remplacés, est-il toujours le même? C'est une question qu'on peut se poser. Eh bien, essayez de penser à quelqu'un qui aurait commis un crime, par exemple, et qui, pour échapper à la justice, dirait, ben, je vais me remplacer mon foie. Je vais remplacer bon, je vais mettre une prothèse à la place du cœur, je vais remplacer mes poumons, mes mains même, celles qui ont commis le crime, et puis je vais me présenter à la justice en me disant, bah, c'est plus moi, j'ai changé, donc je ne suis plus responsable du crime que j'ai commis. Évidemment, tout le monde va rigoler, on va lui dire, mais non, le fait que tu aies changé tous les éléments de ton corps n'a rien à voir avec ton corps lui-même. Et donc aujourd'hui, le statut du corps est devenu indépendant des parties ou des fonctions du corps. On est capable de penser un corps qui est assez abstrait, qui n'est plus le support, qui serait le support de l'identité de la personne, mais qui serait indépendant des parties du corps. On peut donc envisager même la possibilité d'une circulation de ces parties du corps qui ne porterait pas atteinte à l'identité. C'est pour dire donc que, de toute façon, cette question du corps comme support de la personne est devenue beaucoup plus compliquée qu'autrefois. Alors, dans la mesure où le remplacement de parties du corps ou de fonctions du corps n'altère pas l'identité et la responsabilité personnelle, il ne devrait plus y avoir d'obstacle politique ou moral aussi grave qu'autrefois, car ça ne serait jamais une atteinte au corps lui-même, qui serait une entité un peu bizarre, un peu abstraite, et qui resterait inaliénable. Mon corps serait inaliénable, mais les parties de mon corps, elles, pourraient faire l'objet d'un commerce ou d'un don ou d'un échange non marchand. Et alors, de tout cela, il devrait suivre que faire commerce des éléments. Que faire commerce des éléments ou des fonctions du corps ne signifie pas du tout commercialiser le corps lui-même. Et des questions de société comme celle de la légalisation du travail sexuel, de la rémunération des prélèvements d'organes, de sang ou de sperme, ou de la gestation pour autrui pourraient être dédramatisées, enfin à mon avis, si on avait cette distinction à l'esprit. Si on voyait bien la différence entre ça et l'esclavage, la différence entre faire circuler des parties du corps et faire circuler son corps, entre le rapport entre l'identité personnelle et les parties de son corps, et dans quelle mesure, disons, la modification des parties ou l'échange de parties altère l'identité ou pas. Bon, c'est une question complexe, mais qu'il faut se poser évidemment. Alors, si je reste sur cette question, par exemple, de la commercialisation des dons d'organes, des marchés d'organes, il y a évidemment des arguments qui parlent en faveur de la rémunération aujourd'hui. Il y a des gens qui défendent l'idée que, finalement, je ne sais pas si vous avez vu ce film, Un conte de Noël, d'Arnaud Desplechin. C'est dans une famille, il n'y a qu'une personne qui est compatible. Cette personne, finalement, se trouve forcée de se faire prélever de la moelle osseuse pour sauver sa mère. Il y a déjà une petite injustice au départ, c'est que, comme vous le savez, dans les lois de bioéthique, le don d'organes n'est permis qu'entre proches. Bon, ça a été élargi, hein. Autrefois, c'était vraiment qu'entre les ascendants et leurs enfants. Maintenant, ça va jusqu'aux conjoints, les grands-parents, les cousins, etc., peuvent offrir un organe à des fins de transplantation. Mais évidemment, les familles nombreuses, celles qui ont plusieurs enfants, celles qui ont la chance d'avoir des enfants compatibles, donc sont mieux servies, disons, dans ce système que celles qui, malheureusement, n'ont personne. Donc, il y a une une espèce d'injustice déjà, on ne voit pas très bien comment elle pourrait être compensée. Et puis, par ailleurs, l'idée de consentement, comme je disais au début, elle est une notion qu'on respecte quand même aujourd'hui beaucoup. Et le système de don forcé qui risque de s'installer dans la mesure où le don d'organes n'est pas du tout anonyme, on sait qui doit le faire, on sait sur qui est la pression, la personne ne peut pas refuser. Donc il y aurait peut-être avantage à ce que ce don soit organisé de façon plus anonyme, c'est-à-dire que les personnes qui veulent donner mettent ça dans une sorte de banque et que ce soit réparti ensuite selon des critères qui ne sont pas nécessairement la vente aux enchères, mais ne sont peut-être pas non plus l'absence totale de compensation. Donc, si vous voulez, il y a des arguments aujourd'hui qui sont évoqués en faveur d'un système qui soit moins basé sur les familles et le privilège qui est donné à la famille, avec en plus ce sentiment aussi qu'à l'intérieur des familles, les relations ne sont jamais vraiment libres entre les personnes. Et alors, le problème qui pourrait se poser de ce point de vue, c'est que dans ce cas-là, il y a quand même une réserve, une réticence très très forte à l'égard de toute forme de rémunération pour les dons d'organes, d'où cette question de savoir pourquoi on privilégie tellement le don. Et surtout, il y a une autre question qu'il faut se poser, c'est que dans toutes ces opérations, il y a beaucoup d'argent qui circule, hein, dans ces activités médicales de transplantation, de prélèvement. C'est tout bête pour payer le personnel soignant et administratif, la maintenance des locaux, les instruments techniques. Bon, il y a quand même beaucoup d'argent qui circule. Personne ne semble penser que c'est une expression ignoble de la marchandisation du monde. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le seul qui n'aurait pas le droit moral d'être payé ou compensé pour sa participation à tout le processus thérapeutique, c'est le donneur. Alors, pourquoi? Là aussi, il faut se demander pourquoi c'est le seul qui n'a pas le droit. Le médecin, lui, a le droit de toucher de l'argent pour son travail, mais celui qui vient apporter donc un lobe de foie, lui, ça semblerait complètement scandaleux qu'il vienne dire ça. Alors, bon, si ça correspond à sa volonté, c'est-à-dire s'il ne veut pas se faire payer, ça ne pose pas de problème. Mais si le donneur estime qu'il devrait être rétribué, pourquoi serait-il interdit de le satisfaire? Alors, je me souviens, j'avais posé cette question à un médecin, il m'avait dit, mais celui qui vient apporter son foie, il ne travaille pas. Donc pourquoi il serait rétribué? Alors, on peut évidemment lui répondre que quelqu'un qui vend un vieux canapé, il ne travaille pas non plus. Alors, on va dire oui, mais quand même, un foie, ce n'est pas un objet, une ressource, exactement comme un vieux canapé. Vous voyez, et au bout du compte, on va aller jusqu'à la question de savoir si, au fond, vous êtes propriétaire de vous-même, comme vous pourriez l'être d'un objet. Et ça, la personne qui voudrait échanger un de ses organes contre rétribution va lui dire non. Tu n'es pas propriétaire de toi-même, tu ne peux pas disposer de ton corps comme tu l'entends, c'est-à-dire il y a des parties de ton corps que tu ne peux pas vendre ou échanger. Et donc il va dire, mais c'est justement ça la question philosophique. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne dispose pas entièrement de moi-même? Pourquoi est-ce que je ne suis pas propriétaire de moi-même comme je pourrais l'être d'une chose? Et à ça, normalement, bah, c'était le cas avec ce médecin avec qui j'avais discuté, la discussion s'arrêtait là. Alors on peut appliquer bon, toutes ces complexités à la question de la gestation pour autrui. Bien qu'il y ait dans cette question de mettre à la disposition d'autrui ses capacités reproductives, la question est rendue un peu compliquée en raison des problèmes de filiation. Comme vous le savez, en France, la mère est celle qui accouche. Donc il s'ensuit que les contrats de mère porteuse n'ont pas d'effet légal lorsqu'ils sont gratuits. C'est-à-dire même si c'est, par exemple, quelqu'un d'autre qui a donné ses ovules, la mère d'intention, même si il y a une mère d'intention qui n'a même pas donné ses ovules, mais qui a demandé à quelqu'un de donner ses ovules et qui a demandé à quelqu'un d'autre de porter l'enfant. Donc il y a plusieurs personnes qui participent à ce dispositif. La seule qui est reconnue en France comme étant la mère, c'est celle qui a accouché. La mère peut évidemment renoncer à cet enfant, accoucher sous X, mais elle ne peut pas le faire en ayant par exemple ceux qui souhaitaient faire appel à ses services pour une gestation pour autrui, qui seraient à côté par exemple. Elle ne peut pas dire, bien, je vais désigner ces personnes avec qui j'ai passé un contrat pour qu'ils soient les parents. En fait, le processus se passe pas du tout comme ça. C'est pas à vous de décider à qui cet enfant dont vous avez accouché peut revenir. Il est remis selon tout un processus à des services sociaux, à des agences d'État qui, elles, vont décider qui a droit à cet enfant. Donc, c'est pas vous qui pouvez en décider. Alors, Donc, au fond, souvent on dit, bon, bah, écoutez, étant donné qu'on ne peut pas, la gestation pour autrui ne peut pas être légalisée en France, puisque ça serait porter atteinte à ce principe fondamental disant que la mère est celle qui accouche. Mais évidemment, c'est un principe qui est un principe simplement juridique, et comme tous les principes juridiques, il peut être modifié. D'ailleurs, ça a été le cas dans de nombreux pays, comme la Grèce, par exemple, la législation a été modifiée, ou l'Angleterre, pour l'autorité. Donc, étant donné que les lois changent, ce n'est pas un argument de dire que la loi est ainsi, hein, pas un argument suffisant. Donc, on donne d'autres arguments. Et parmi les raisons qui sont invoquées pour exclure toute possibilité de légaliser les mères porteuses, l'un des plus récurrents, c'est que ces femmes seraient payées nécessairement, pendant tout le temps de la gestation, pour mettre à la disposition d'autrui leur capacité reproductive. Et ça serait donc une expression de cette dérive mercantile. En tout cas, ça irait contre le principe de non-commercialisation du corps humain qui fait partie, donc, comme je vous disais, donc, de ces principes de base de la législation bioéthique. Finalement, donc, le principe de non-commercialisation du corps humain intervient aussi dans la question des mères porteuses, en ce sens qu'il contribue au maintien de l'interdiction. Mais là, c'est les mêmes questions que je posais tout à l'heure, on peut se les poser aussi pour les mères porteuses. Respecter le principe de non-commercialisation ne peut pas vouloir dire qu'il est injuste ou immoral de vendre sa force de travail, par exemple, son image, ses capacités intellectuelles, sa créativité ou même ses capacités à aider autrui, comme un psychologue, par exemple, qui y vend ses capacités à aider quelqu'un. Une aide à domicile, un masseur, un kinésithérapeute, voilà toutes sortes de services corporels qui sont échangés contre de l'argent, contre un salaire, et personne ne considère que c'est porter atteinte au principe de non-commercialisation du corps humain. Respecter ce principe ne peut pas vouloir dire non plus qu'il serait absolument injuste ou immoral de se faire payer pour un prélèvement de sang, puisqu'il y a de nombreux pays dans lesquels les prélèvements de sang sont compensés, hein, pas par des sommes énormes, mais bon, elles le sont quand même. Pourquoi le fait de mettre ses capacités procréatives à la disposition d'autrui ne pourrait-il pas être aligné sur toutes ces façons de mettre son corps et ses capacités à la disposition d'autrui? Alors, donc, là, je me suis mis dans la situation où quelqu'un poserait toutes ces questions. Et donc, un législateur ou un député devrait lui dire, voilà, je vais t'expliquer pourquoi tu ne peux pas le faire. Alors, il faut faire attention, comme je le disais tout au début, à ce qu'il n'utilise pas d'arguments religieux, hein, puisqu'on est dans une démocratie laïque et pluraliste, et aussi qu'il n'utilise pas d'arguments qui soient purement empruntés à une doctrine philosophique d'ensemble, comme la doctrine de Kant, en disant, écoute, tu ne peux pas faire ça, alors, ou bien parce que c'était écrit dans la Bible, ou bien parce que Kant l'a dit. Alors, donc, il faut trouver d'autres raisons. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il y a des raisons publiques, c'est-à-dire des raisons qui ne sont ni religieuses, ni appartenant à une conception morale d'ensemble, qui pourraient justifier le fait qu'on rejette, disons, la volonté de personne de construire un arrangement dans lequel l'une porterait l'enfant pour l'autre. Eh bien, à mon avis, enfin, je pense qu'il n'y a aucune raison parmi celles qui sont invoquées, à part cette notion donc d'intérêt de l'enfant, qui n'est pas une notion juridique à proprement parler, mais qui était utilisée de plus en plus en ce qui concerne, disons, les objections à la légalisation de la gestation pour autrui. Alors, l'un des arguments, c'est que en acceptant, légalisant la gestation pour autrui, on consacrera la vente de bébés, la vente d'enfants, en fait, puisque je paierai, hein, pour tout ce processus médical pour avoir un enfant. Mais personne ne considère que les parents qui payent 20 000 euros, par exemple, pour une fécondation in vitro, hein, supposons que vous avez payé de l'argent pour ça, que vous soyez remboursé par la sécurité sociale ou pas, est-ce qu'on considère qu'il a acheté un enfant? Non. Hein, quand on fait toute cette, disons, l'assistance médicale à la procréation classique, donc la fabrication d'un embryon, puis sa transplantation, on n'a pas acheté un enfant. Je ne vois pas pourquoi on devrait penser autrement lorsqu'on paye la mère porteuse. Là. Bon. Et d'autre part, il ne faut pas oublier, ces arguments qui exagèrent, que même dans le cas où on donnerait une certaine rétribution à la mère, ce qu'on achète, ce n'est pas le bébé au sens où on peut en faire ce qu'on veut, par exemple le manger le soir même après l'avoir passé au four avec des herbes. Non, on achète non, des devoirs, pas des droits à l'égard de l'enfant. On achète des devoirs de protection, on achète des devoirs de veiller à son éducation, à sa santé. Donc, si vous voulez, c'est le contraire d'une forme d'esclavage. On s'engage, comme lorsqu'on adopte un enfant, à respecter des devoirs qui sont nombreux qui exigent tout un investissement à la fois matériel et psychologique de la part des parents. Donc, il est, à mon avis, un peu absurde de comparer ça à une vente. C'est la même façon lorsqu'on dit, si on commence à choisir l'enfant, le bébé sur carte, on va fabriquer des enfants. Là aussi, c'est une exagération dans le vocabulaire. Finalement, on ne fabrique que des objets. Et un enfant, même s'il y a eu un choix sur le genre de gamète, il n'est pas fabriqué, il est enfanté, il est procréé de la même manière que n'importe quel autre bébé. Il faut faire tellement attention à ce langage. Par exemple, quand Sylvia Nagasinski parle de la location des ventres, quand elle va chez un kinésiste, ça lui arrive, probablement, elle ne dit pas « je loue ses mains ». C'est pas, c'est, tout ça, ce sont des choses pour horrifier et pour nous empêcher de réfléchir, à mon avis. On dit aussi que une femme qui accepte de porter un enfant pour autrui passe un contrat dans lequel, par exemple, elle s'engage à pas fumer, elle s'engage à suivre un certain nombre de règles à l'égard de l'enfant. Et là aussi, on trouve que c'est scandaleux puisque c'est porter atteinte à sa propre liberté. Mais, par exemple, un athlète qui joue dans un club de foot, qui est obligé de se plier à des règles diététiques, on ne dit pas qu'il est réduit en esclavage. Un comédien qui n'a pas le droit d'aller faire du ski parce que ça risquerait d'interrompre le tournage s'il se cassait une jambe, on ne considère pas non plus que c'est une forme d'esclavage. Et là, on voit à nouveau que dès qu'il s'agit de procréation de sexualité, tous nos principes pour lesquels on est finalement assez ouverts, assez libéraux, d'un coup, on semble pratiquement incapable de les appliquer ou de faire les rapports. Pour mettre complètement à part des activités athlétiques et artistiques, la gestation pour autrui, je crois qu'il faut endosser une conception pratiquement sacrée de la maternité et une théorie naturaliste des liens qui s'instaureraient nécessairement entre une mère et l'enfant qu'il porte. Et comme bon, vous êtes qui peut ne pas être au courant de ce que Elisabeth Badinter vient d'écrire sur le maternalisme, la réduction de la femme à son statut de mère. Et elle avait déjà écrit un livre il y a 30 ans de ça, je crois, L'amour en plus, où elle montrait que ce lien n'a rien de naturel, le lien qui est créé entre la mère et l'enfant qu'elle porte. Et donc, au moins, là aussi, on peut avoir un certain scepticisme à l'égard de ce point de vue. Je vais juste donner un argument que j'ai eu ça pendant tout le débat à propos des dérives mercantiles, auquel on m'a jamais donné de réponse à propos de la gestation pour autrui. Peut-être que vous en avez une. Donc, à chaque fois que j'avais ces débats, on disait oui, alors donc, si la gestation pour autrui est légalisée, ce qui va se passer, c'est que des femmes riches et bien portantes, qui ont peur, par exemple, de porter atteinte à leur ligne, vont choisir une femme pauvre pour leur faire porter un enfant avec leurs propres ovules, par exemple. Et donc, on va exploiter le corps des femmes pauvres, etc. Bon. Et puis en Inde, ça se passe déjà comme ça. Alors, il y a toutes sortes de témoignages et on suppose donc que non seulement les femmes sont exploitées par les hommes, maintenant les femmes vont exploiter d'autres femmes pour ne pas avoir, je sais pas, de vergeture, gagner leur ligne, etc. Alors, ce qui est intéressant dans cet argument, c'est qu'en effet, il peut y avoir toutes sortes de dérives, comme il y en a dans toutes choses. Ce genre de dérive n'est pas vraiment documenté, il s'agit plutôt d'une crainte un peu hypothétique, mais en ce qui concerne le trafic d'organes, c'est bien documenté. On sait qu'il y a des trafics d'organes, on sait que les organes sont même parfois prélevés sur des personnes qu'on a, disons, mis dans une mauvaise situation pour ça. Mais est-ce que le fait qu'il y ait un trafic d'organes international, qui a des côtés sordides, va nous faire revenir sur l'idée qu'on devrait cesser de donner des organes? Non. Personne ne fait cette inférence. Personne ne pense que du fait qu'il existe un trafic d'organes sordide dans le monde, il faudrait interdire tout don d'organes. En revanche, pour la gestation pour autrui, c'est exactement ce qu'on pense. Du fait qu'il pourrait y avoir un trafic sordide de femmes qui exploiteraient d'autres femmes, alors même la gestation pour autrui à titre, disons, gracieux, comme non onéreux, comme ça pourrait se faire entre membres d'une famille, est complètement exclu. Comme je vous disais dans mon livre, j'essaye de justifier l'idée que même si elle est rétribuée, ce n'est pas si grave que ça. Mais restons-en, disons, à l'argument qui pourrait faire l'objet d'un plus large consensus que le mien, une gestation pour autrui, puisque même Nadine Morano défendait cette idée, donc on ferait pour sa sœur, une fille, bon, eh bien, même celui-là étant dénoncé au nom des dérives mercantiles, il est curieux de voir pourquoi ce n'est pas un argument qu'on étend aussi au trafic d'organes. Alors, ce que je voudrais vous dire juste deux mots pour conclure, l'argument de la dignité humaine et l'argument de la marchandisation des dérives mercantiles, je ne dis pas du tout que ce sont des mauvais arguments. C'est simplement de montrer quelles raisons nous avons de nous en méfier. Et il faut aussi savoir que leur base philosophique n'est pas si assurée que ça, et que il est souvent utilisé, ces deux arguments sont souvent utilisés pour interdire toute innovation normative, par exemple l'accès des gays à l'assistance médicale à la procréation, ou le droit pour les femmes qui ont dépassé la limite des 43 ans d'avoir un enfant. Donc je ne suis pas d'accord avec cette idée qu'on puisse se servir de ces arguments pour en faire un usage que je juge conservateur ou réactionnaire. Beaucoup de ceux qui défendent ces interdits estiment que c'est le dernier rempart de la civilisation contre la barbarie, hein, tout ça. Moi, je pense plutôt que c'est les derniers moyens que nous avons maintenant de nous couper de toutes les utopies, d'avoir l'impression qu'il n'y a vraiment plus rien à faire dans ce monde, que toute innovation, quoi qu'on fasse, ira vers la marchandisation, la commercialisation. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui nous empêche de penser à un monde un peu différent de celui dans lequel nous nous trouvons.